Voilà. Merci d'être avec nous pour cette conférence une nouvelle fois sur les réseaux. Ah ben là, vous m'entendez jusqu'au bout du bar. Cette conférence sur les réseaux où on va s'interroger sur le réseau, un thème de science-fiction. Et la question sous-jacente à cette excellente introduction, c'est quelle image la science-fiction a des réseaux ? Est-ce que c'est une image positive ? Est-ce que c'est une image négative ? On a même des paparazzi. Et on ne voulait pas qu'on se mette dans le fauteuil ? Dans la grande banquette ? Ça vous dit de se mettre dans la grande banquette ? On va se mettre plus près de vous parce qu'il y a une grande banquette et que ce sera vachement plus sympa du coup dans la relation. Donc, j'espère que c'est pas trop compliqué avec la technique. On aura juste deux micros, voilà. Il va falloir qu'on s'écoute tout ça.
Ouais, j'ai pris un micro.
Voilà, on a un micro. Et c'est comme à la maison finalement. C'est génial. C'est comme à la maison, mais on n'a pas fait la déco. Hein. On est vraiment désolé. C'est pas de notre faute. Oh, c'est bien. C'est mieux. Alors, donc, nous avons trois auteurs français pour débattre sur cette image de la science-fiction, des réseaux qu'a la science-fiction. Le réseau qui est véritablement un thème de science-fiction, avec le cyberpunk, mais pas seulement. Hein. C'est une image qu'on retrouve dans de nombreux romans. Complètement à ma droite, donc à votre gauche, nous avons Norbert Merjanian, qui a écrit Les Tours de Saramante, édité aux éditions de Noël. Juste à son côté, Catherine Dufour. Alors, je vais citer Le goût de l'immortalité, mais sans doute aussi, on va parler de l'ivresse des providers, qui se passait pas mal dans les réseaux informatiques. Et on verra que l'image est vraiment étonnante. Et puis, juste à côté de moi, Jean-Marc Ligny. Le dernier, c'est AquaTM qu'on peut citer. Il y en a un autre depuis ?
Paru depuis AquaTM. Enfin, dans le domaine qui nous intéresse, non. J'ai eu un poulpe. Mais bon, on est hors du sujet.
Voilà.
Bien que les amateurs de SF peuvent aussi aimer les polars, mais il est question aussi de réseau dans AquaTM, d'ailleurs.
Alors, dans AquaTM, il est question de réseau. Il est aussi question de réseau dans Inner City. Deux livres qui incorporent ce thème des réseaux. Quelle image tu en donnes dans ces romans ? Positif, négatif ?
C'est assez variable en fait. Quand j'ai écrit AquaTM et son prédécesseur Cyberkiller et la suite, j'avais des réseaux qu'une vision surtout livresque à travers les romans cyberpunk anglo-saxons notamment, à travers quelques bouquins que j'avais lus sur les pirates des réseaux, les virus, etc. Les articles et tout, donc j'étais pas moi-même connecté à un réseau à cette époque-là. J'avais pas encore internet quand j'ai écrit Inner City, et donc j'avais a priori un aperçu plutôt critique. Et donc dans Inner City, en deux mots, les réseaux servent essentiellement à partager une réalité virtuelle vécue en consensus par la plupart des gens connectés. Donc je précise bien connecté, parce qu'il y a toute une frange de population que j'appelle les outers qui n'ont pas les moyens d'être connectés, donc qui sont hors des réseaux de la société, mais qui ont leur propre réseau informel de qu'ont tous les parias, tous les rejetés, tous les bannis, se constituent forcément des réseaux. Et donc ces réseaux officiels servent à surtout... générer une réalité virtuelle extrêmement conviviale et chatoyante qui devient tellement agréable pour les inners, donc les connectés, qu'ils en oublient la réalité quotidienne. Donc ça sert essentiellement à ça. Ceci dit, j'ai développé les réseaux dans d'autres bouquins, notamment Jihad, où là c'est plutôt le côté réseau de surveillance, et un peu dans Aqua également. Entre-temps, j'ai modifié mon opinion sur les réseaux, parce qu'un réseau, c'est avant tout, à mon avis, un outil. C'est des tuyaux dans lesquels passe de l'information. Après, tout dépend qui génère et qui reçoit cette information et qu'est-ce qu'on en fait. Donc, un réseau comme Internet par exemple, c'est maintenant désormais incontournable, ça fait partie de notre société quotidienne et ça paraît difficile de pouvoir s'en passer. Et donc on y trouve aussi bien le plus vaste réseau d'information et la plus vaste encyclopédie du monde que le prétexte à tous les fichages, à toutes les surveillances, à tous les cryptages. Bon, le dernier en date, là, la fameuse loi que veut nous faire passer le gouvernement où ils prétendent être capables de déconnecter 1000 personnes ou 10 000 personnes par jour qui partagent, qui font cette activité illégale et hontée de pirater des films et de la musique sur Internet. À croire que c'est carrément plus grave que d'animer un réseau de pédophiles. Donc, les réseaux, c'est un outil. On peut pas globalement, moi je dirais, avoir une image positive ou négative. C'est comme si on nous demandait de juger sur le côté positif ou négatif de la fission de l'uranium, bon, qui est un phénomène naturel. Après, l'uranium, effectivement, se désagrège naturellement. Et après, tout dépend ce qu'on en fait. On peut en faire des lasers médicaux pour opérer, faire des opérations délicates, comme on peut en faire des bombes atomiques, tout le monde le sait. Donc les réseaux, c'est pareil. On peut, ça peut servir, à échanger des informations au sein d'une dictature, par exemple, en douce, comme ça peut servir, effectivement, à totalement contrôler les gens dans leur activité et déplacement quotidien.
Il y a eu un fait divers il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois quand même, je crois que c'est un Japonais qui a passé 3 jours devant World of Warcraft, excusez mon anglais, et alors ce qui m'a tout de suite fait penser à Inner City, où effectivement il y a des gens qui ne se débranchent plus. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir cette information ou cette
Je crois que c'était un Coréen, ouais, il en est mort au bout de 72 heures de connexion non-stop. Imaginez, non-stop. Hein. Même pas, il s'est déconnecté.
Imaginez le niveau dans le jeu, comment il devait être super balèze. Bon, bref.
Ouais, il était peut-être très balèze au niveau jeu, mais au niveau, je dirais, logistique corporelle, ça suivait plus tellement. Quoi.
Il faisait même pas pipi ?
Écoute, l'information n'a pas été précisée.
J'ai pas eu vraiment ce détail, mais je crois qu'il s'est déconnecté. Sans se déconnecter, tu peux ? Avec une connexion Wi-Fi, tu peux bouger. Hein.
Oui, alors effectivement, comment est-ce que tu as reçu un petit peu cette actu, toi qui avais écrit déjà dans Inner City, gens qui ne se déconnectent plus.
Je l'ai reçu avec un mélange de fatalisme et de stupéfaction. Quoi. Ça m'a fait le même effet que quand on m'a annoncé l'histoire du lac souterrain au Darfour, découvert par un satellite américain un an après avoir publié Aquatem, ou les fameuses élections de 2002, donc 4 ans après avoir publié Djihad, de me dire que la réalité rejoint la fiction et malheureusement, c'est pas ce que je souhaitais, quoi. Enfin bon, ça fait quelque part une espèce de satisfaction perverse en se disant j'avais bien raison finalement. Et puis d'un autre côté, mais moi, c'était de la fiction, quoi. C'était pas censé arriver, et puis ça arrive quand même. La science-fiction, c'est pas de la prophétie, quoi. Et si par coïncidence, ça devient une espèce d'avertissement prémonitoire comme ça, ça devient très angoissant, parce qu'on se dit, mais ce monde pourri que j'ai décrit, il est vraiment en train d'arriver. Donc, mais c'est pas ce que je voulais. Moi, c'était une espèce de cri d'alarme que je poussais. Je disais pas, non, faut faire comme ça. Et c'est quand même hallucinant. Et moi je me dis que maintenant c'est possible, c'est le premier, on en parle. Maintenant il y en aura d'autres qui seront anonymes et puis on va continuer de développer de toute façon la réalité virtuelle. Je veux dire, la télé 3D c'est pour très bientôt. Donc les ordinateurs en 3D ce sera la génération suivante. Et puis après, on aura les accessoires pour rentrer complètement dans l'ordinateur, quoi. Et je pense que ce qu'on décrit déjà en SF, des mémoires sauvegardées, téléchargées de gens qui sont morts, il viendra un moment, peut-être assez vite, où ça deviendra possible. Sous une forme, d'ailleurs, à mon avis, altérée, voire délétère. et on risque d'avoir de drôles de fantômes dans la machine.
Alors on va passer la parole à Catherine Dufour, juste à côté, qui regarde le plafond. Qu'est-ce qui se passe?
Non, je suis en train de...
d'essayer
de calculer l'équivalent joint clope. Alors hier, il y avait un... Il y avait un joint clope, je crois que... Un joint, c'est dit...
Joint de carrelage, on est d'accord?
Un joint, un cannabis, quoi. Oui, parce qu'hier, il y avait un... J'ai participé à une table ronde qui était hyper intéressante. Si vous n'y étiez pas, c'est dommage. Et il y avait un intervenant qui s'appelait Bruno Rocher, qui est addictologue. Et il faisait remarquer qu'effectivement, les addictions au réseau, c'est très inquiétant. Mais ce qui est inquiétant, c'est l'addiction. Et il ne faut pas croire qu'avant le réseau, l'être humain était un être libre et dépourvu d'addiction, et que tout d'un coup, le réseau va créer des catastrophes. Lui, il soigne les addictions aux NTIC, aux nouvelles technologies, mais il dit que, par exemple, il y a un type qui fumait 40 joints par jour. Alors, je ne sais pas combien ça fait en paquet de clopes. Ça doit faire 10 ou 20 paquets, en équivalent. Et qui a arrêté pour passer à World of Warcraft. Au niveau pulmonaire, c'est mieux, en fait. Bon, après, il y a tout le problème de au niveau... Ouais, ouais. Et non, ouais, ce qu'il faut soigner, c'est dans l'addiction, c'est le décollement par rapport au réel. Mais il y a toujours eu, l'être humain a toujours eu une tendance comme ça à essayer de se décoller du réel. Et quand il n'y avait pas Internet, comment on faisait? Eh ben, il y avait notamment une addiction qui s'appelait la dromophobie. Et les gens, ils voyageaient tout le temps. Il y avait une folie du voyage. Et il y en a, ben, je crois que c'était Nerval qui faisait ça beaucoup. Ils se promenaient la nuit, c'est-à-dire si les gens ils dormaient pas la nuit, ils sortaient dans Paris et ils se promenaient, mais c'est à une époque, je veux dire, il n'y avait pas un bec de gaz, quoi, il n'y avait pas non plus de lampe de poche, et ils passaient toute leur nuit à marcher, et il y avait des hordes de marcheurs qui se promenaient dans Paris et dans toutes les autres villes, et ça leur tenait lieu à eux d'internet. Donc il y a toujours eu de toute façon des tendances à l'addiction, et à la limite rester chez soi ou les pieds au chaud, c'est peut-être moins dangereux qu'aller se casser la figure dans les carrières parisiennes by night. Et il faut savoir aussi, oui, voilà, il dit, attention, n'appelez pas pathologie tous les comportements humains. On commence à parler d'addiction à partir de 15-20 heures par jour de connexion, quoi. C'est pas parce qu'un gosse est 3 heures par jour sur WoW que c'est dramatique. Et surtout, il rappelait qu'il y avait donc les addictions du temps passé déjà. Il y a un siècle, ce qui était bien, c'est que vous ouvriez votre armoire à pharmacie, vous aviez le laudanum, opium. En dessous, pour soigner vos migraines, vous aviez l'éther pur. Et il y avait aussi une addiction qui était très connue chez les vieilles filles, c'était l'asticage. Elles passaient leur temps à nettoyer, notamment tout ce qui était les pieds de table. C'est nickel. Bah ouais, c'est. Et non, mais c'est à cette époque-là, il faut quand même voir, fin du 19e siècle, on brodait des petites jupes pour les pieds des pianos. Il ne fallait pas voir de jambes, voilà. Donc les jambes des pianos, et pas de raison de les voir non plus. Et on ne servait jamais un poulet, non désossé. Parce qu'un poulet écarte les papattes, puis il y a le trou au milieu, là. Donc c'était obscène de servir un poulet. Donc il y avait effectivement la bigoterie, il y a une forme de bigoterie très poussée qui était de l'ordre de l'addiction. Et il y avait aussi, on ne se rend pas compte, mais la bouffe. Maintenant, on n'a plus trop les problèmes de goutte. Voilà. Et la goutte, c'est simplement trop manger. Et les gens, quand ils avaient les moyens, passaient 3 heures, 4 heures, 5 heures à table à s'empiffrer. Et vous regardez les menus de l'époque, on commence par 2 poulets, ensuite un petit potage, ensuite un poisson, après quelques cailles. Après, on se fait le plat de résistance qui est un dindon, et ensuite, on va se refaire un potage avant de passer aux glaces et finir par un poulet. Voilà. Et les gens crevaient de bouffe à un point qu'on n'imagine plus, quoi. Et j'avais trouvé ça très intéressant de ne surtout pas accabler le réseau en disant il crée des addictions. Non, c'est une addiction qui va se substituer à une autre déjà existante.
Voilà. Alors comment est-ce que toi tu le vois le réseau informatique dans par exemple le roman L'ivresse des providers?
Alors ouais, c'est un tout petit peu plus fantastique. Donc L'ivresse des providers, c'est le deuxième tome de Blanche-Neige et les lance-missiles. Et j'imagine que les morts, pendant des siècles et des siècles, ils sont obligés de hanter des cimetières humides et malsains. Donc le jour où ils découvrent les fils du télégraphe, ils réalisent la conversion spectro-numérique. Et ils se transforment, en fait, ils se mettent à hanter les fils télégraphiques. Donc 1846, première ligne de télégraphe électrique. Ensuite, ils vont hanter le téléx, les fils du téléphone, et après, ils vont découvrir Internet. Et ils vont s'installer sur Internet. Parce que moi, une des premières choses qui m'a stupéfiée quand j'ai découvert Internet, c'est le nombre de gens qui sont sur les forums, qui font des mails, qui font des sites, qui font des blogs, etc. Et à chaque fois, je me dis, mais où est-ce qu'ils trouvent tout le temps pour faire ça? Est-ce qu'ils n'ont pas, comme moi, allé gagner leur vie? Et en fait, non, parce qu'ils sont morts et numérisés.
Donc, ils ont,
tout leur temps. Et en fait, la plupart des gens à qui vous faites des mails coquins sur Internet, ce sont des spectres. Voilà. Et donc, j'imagine qu'ils colonisent tout Internet. Alors après, évidemment, il y a des guerres intestines, puisqu'il y a Blanche-Neige, qui est un abominable dictateur, qui, avec l'aide de Bill Gates, met la main sur l'Internet terrestre. Du coup, les spectres du web libre vont former un autre Internet, mais sur l'ISS. Voilà, ils se promènent entre satellites. Et bon, après, dans l'avenir, effectivement, il y aura le web sur la Lune, il y aura le web sur Mars, etc. Mais ils n'arriveront jamais à chasser Blanche-Neige du web terrestre. Voilà. C'est ma vision du... Mais c'est un petit peu plus fantastique, peut-être.
En tout cas, on recommande le roman. Alors, juste à côté de toi, nous avons M. Merjanian. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a beaucoup parlé de réseau informatique, mais lui, dans les tours de Saramante, il parle d'une autre forme de réseau, un réseau plus organique. Comment est-ce qu'on peut le voir, ce réseau-là?
En fait, je vais pas répondre à ta question. Je vais repartir sur l'image de la science-fiction.
Vous et ensuite, je répondrai à ta question. C'était convenu comme entre nous. Comme je pose prévenu. Une question, il fait une réponse différente.
Parce que pour moi, tu demandais en quoi est-ce que la SF, quelle est l'image que la SF donne du réseau. Et moi, ma première réponse est déjà la SF donne une image du réseau. Quand on parle de réseau informatique, ce qui n'était pas le cas avant, les réseaux ne se résument pas du tout à l'informatique. C'est toutes les villes forment des réseaux de transport, des réseaux électriques. Un schéma électrique, c'est un réseau. Et ensuite, il y a la visualisation de ce schéma. Et la SF a donné une vision du réseau informatique dans le cyberpunk, avec la matrice, en recréant d'ailleurs des réseaux existants, en recréant des immeubles, en donnant à voir en fait des personnages qui vont se balader dans le réseau comme on se balade dans une ville. Donc en reprenant tous les réseaux qui existent, qui sont les réseaux humains, parce que l'homme est un animal social qui ne peut vivre qu'en réseau, qui est préexisté, et donc là, en réhumanisant en fait le réseau informatique qui était un peu froid et abstrait. J'en viens. Donc dans les tours de Samarante, en fait, il y a effectivement, d'abord il y a des réseaux. Pour moi, Samarante est une cité où le réseau est omniprésent, et donc la question s'inverse. C'est pas d'être connecté au réseau la question qui est posée, c'est comment se déconnecter du réseau. C'est-à-dire que le réseau se fond avec la ville, on s'y connecte en se promenant, par exemple par ses bottes dans un immeuble, on est connecté au réseau immédiatement de l'immeuble et au réseau plus globalement. Et donc éventuellement la question qui peut se poser pour certains qui ne veulent pas être connectés, c'est comment est-ce que je me déconnecte. Donc éventuellement avec des filtres, ou une autre façon en fait, c'est de se fondre dans le bruit, parce qu'un réseau au bout d'un moment il est inintelligible. Et donc la meilleure façon de ne pas être dans le réseau, c'est d'être dans le bruit. Moi, il y a un autre concept qui m'intéresse beaucoup, qui est le réseau vivant. C'est-à-dire que là, on parle de réseau informatique, donc de matière inorganique. Il y a un personnage dans les tours de Samarante qui s'appelle Rétiola. Rétiola, c'est veut dire réseau, qui est en fait composé d'individus qui sont sélectionnés lors de soirées clandestines et qui ont envie de dépasser leur individualité et de se fondre dans un réseau vivant, qui est un réseau intelligent, sans perdre pour autant leur autonomie. Parce que là aussi, ça renvoie à qu'est-ce qu'on est sur un réseau. Chaque individu sur un réseau est une unité à part, avec ses spécificités. À quel moment sur le réseau il se fond dans le réseau, où il garde son individualité. Et quand j'ai essayé de penser à ce réseau organique, je me suis dit, la vraie question, c'est à quel moment est-ce que, quand on participe ou quand on se fond dans un réseau, on perd son individualité et on devient autre chose, soit un avatar, soit on prend en fait l'essence du réseau et on se perd et on perd ce qu'on est soi-même. Et donc là, ce qui était important pour que ce réseau vivant fonctionne, puisse survivre, puisque c'est un organisme, survivre et se développer, c'était qu'il respecte les individualités de ses membres. et en même temps, évidemment, l'ensemble étant apportant autre chose, puisqu'on est sur une pensée collective, apportant autre chose à chaque individu qui reste humain. C'est un concept qui m'intéresse, et je pense que l'avenir des réseaux, c'est ça. C'est pas le réseau informatique dans le sens où on se connecte, on se déconnecte, etc., mais c'est quelles sont les formes de réseaux beaucoup plus complexes qui peuvent permettre à des êtres intelligents de dépasser leurs limites d'être humain, parce que c'est ce qu'on cherche tous à faire quand on va sur un réseau, c'est de dépasser son espace immédiat d'être humain dans sa cuisine à manger et à dormir, enfin, ou dans son lit.
Alors comment faire justement pour garder les individualités au sein d'un même réseau?
Alors ça renvoie... Moi, j'ai résolu la question par une forme de sélection, un peu comme dans une secte, c'est-à-dire que la personne qui... Enfin, le réseau Rétiola et ses membres sélectionnent des individus qui sont des individus qui leur semblent d'une manière ou d'une autre d'abord avoir une envie de dépassement individuel, donc... souvent dans un milieu artistique, des gens qui sont plutôt tournés vers les autres et en même temps qui ont émotionnellement, intellectuellement une capacité à les rejoindre sans devenir également une forme de virus biologique, c'est-à-dire sans devenir quelque chose qui remette en cause l'ensemble. Donc il y a tout un choix, ça se passe dans des salons clandestins la nuit et voilà, un peu dans des, voilà, comme on peut imaginer dans les mauvais quartiers. C'est une méthode de sélection. À mon sens, la vraie question, c'est plutôt quels sont les individus qui ont envie eux-mêmes de participer à ces réseaux, pourquoi, et à partir de là, pourquoi se limiter à des réseaux qui sont simplement des réseaux informatiques. Et comme d'habitude, dans toute population humaine, il y a toujours quelques individus qui veulent aller au-delà, et voilà, c'est ce qui m'intéresse.
Cette notion d'individualité, Jean-Marc, dans les réseaux que tu décris, tu penses que c'est possible de garder l'individu en même temps faisant partie d'un tout ?
Dans les réseaux que je décris, aussi bien dans Inner City que je mentionne aussi dans Aqua ou dans d'autres bouquins comme ça, en fait, l'individu vit une seconde vie. Hein. Le fameux second life des réseaux, vit une seconde vie dans les réseaux et donc tend à une personnification maximale. Moi, je ne pense pas que les réseaux informatiques, justement, sur Internet, les réseaux d'univers partagés et tout, tendent à l'uniformisation, enfin, ou du moins à fondre leurs membres dans un espèce de gestalt un peu fourmilier. Au contraire, les serveurs, les providers de ces réseaux vont les rendre le plus attractifs possible en proposant le plus d'options possibles, comme sur une bagnole, on peut choisir la couleur, la couleur des sièges, les différentes options qui peut y avoir. Là, pareil, la personne qui se connecte à ces réseaux donc peut se construire son avatar à partir de 1350 modèles différents. Il a l'accès à une garde-robe de 12 000 vêtements. Il peut choisir 8 couleurs de peau. Il peut choisir dans une banque de caractères aussi, s'il est lui-même trop timide, il peut se rendre un peu plus entreprenant, etc. Enfin bon, il a tout un tas d'options comme ça pour se constituer une personnalité. Et il y a même moyen, si on est un peu crack en programmation, de se la faire sur mesure. Tout comme maintenant, quand on achète un programme musical, un synthétiseur, on peut choisir parmi toutes les banques de sons et puis produire une musique totalement insipide mais qui tient la route quand même. Ou alors, si on a un peu plus craque, on peut faire sa propre musique car un peu plus de caractère. Donc la personnification, elle est aussi artificielle que la vie proposée en question. Mais néanmoins efficace parce que les gens peuvent se cacher derrière cette apparence et vivre une vie bien plus exaltante que leur vie quotidienne. Et si en plus ils se plantent, ils n'ont qu'à effacer et recommencent. bon, s'il rate, je sais pas, un rendez-vous galant, c'est pas grave. Il y a des dizaines de milliers d'autres occasions qui sont possibles, etc. Bon, s'ils meurent, ils ont une vie de rechange. Donc la vie devient, dans ces réseaux-là, tout devient possible. Voilà, y compris les plus les extravagances les plus folles qui peuvent même être encouragées. Ça ne met pas en danger la vie du réseau. Le réseau ne vit que par l'animation de ses membres. Donc plus les membres sont animés, plus le réseau vit et plus il attire de monde et plus il rapporte de fric au provider. Parce que c'est ça le but, en fait. C'est quand même du commerce et c'est de vendre du temps de connexion et de l'espace de connexion. Et tant que les inners, enfin là je parle toujours d'inner city, hein, tant que les inners sont connectés dans leur réalité virtuelle, ben, ils ne prennent pas garde à ce qu'on fait d'eux dans la basse réalité. Donc effectivement, ils peuvent se connecter jusqu'à en mourir. Ça arrive dans, je crois que ce n'est pas dans inner city, mais dans une de ces versions jeunesse, où les parents d'un inner, ça fait 3 semaines qu'il ne les a pas vus, ils frappent sans cesse à leur porte, le pauvre gamin. Bon, là, tout l'appartement est géré par une domotique totalement efficace et autonome, et ce qui fait que le môme il peut parfaitement vivre sans ses parents. Ses parents sont enfermés dans leur chambre. Et puis, au bout de 3 semaines, quand même, bravant les interdits de la domotique, il force la porte de la chambre des parents, et puis il voit en fait que dans leur mindside, c'est-à-dire leur combinaison total, qui les connecte totalement au réseau, donc vue, oui, goût, odorat, etc., ils ont une combinaison, n'y a plus que 2 squelettes, quoi. Mais qui néanmoins continuent de vivre dans les réseaux, parce qu'il y a des programmes de correction automatique qui génèrent leur existence d'ersatz et d'avatar. Ils ne répondent plus, mais du coup, ça s'est mis en mode automatique, quoi. Ils continuent de tourner.
C'est presque les fantômes de l'ivresse des providers.
Ouais, mais en plus, moins rigolo quand même.
Est-ce que tu écrirais, je me rappelle plus de la date exacte de publication, mais est-ce que tu écrirais le réseau de la même manière aujourd'hui qu'à l'époque ?
Ouais, c'est sorti en 2002. Là, je l'ai réécrit pour la sortie en poche. Oui, parce que ça quand même, Blanchet, j'ai lancé Missy, Livraise et Provider, ça a quand même une vocation à être rigolo, quoi. Donc j'ai pas mis dedans tout ce qu'il y a comme ce que je considère comme danger dans les réseaux. Le premier d'entre eux, pour moi, c'est justement la mémoire. C'est comme quelqu'un qui fait jamais pipi, quoi. On peut plus oublier. Il y a pas mal de gens qui ont quelques problèmes à l'embauche parce que leur employeur découvre sur le net la grosse murge qu'ils sont pris il y a 3 ans quand ils étaient jeunes et bêtes, quoi. Et ils paieraient cher pour que ça soit oublié. Alors qu'avant, on pouvait vomir tranquillement à 20 ans et puis trouver un boulot à 25 sans que ça ressorte comme si c'était d'hier. C'est dans l'accroissement mathématique du plaisir, enfin une nouvelle mémoire morte, où chaque gamin est accompagné d'un petit robot domestique qui va surveiller s'il ne fait pas trop de bêtises, s'il joue avec la perceuse, il déconnecte la perceuse, etc. Et puis après, une fois que vous avez fini d'être un enfant, à l'âge de 10 ans, hop, on prend toutes ces mémoires et on les stocke, enfance terminée, enfance classée. Mais vous pouvez très bien, après, à l'âge de 25 ans, vous engueulez avec votre mère, vous allez voir votre mémoire d'enfance, et puis vous dites, là, tu m'as collé une claque, maltraitance, tralala. Et puis là, vous pouvez porter plainte contre... Enfin, le fait qu'il n'y ait plus d'oubli, que tout soit systématiquement stocké, moi, à mon avis, ça va rapidement poser problème. C'est pas bon, un cerveau qui oublie plus, on va tous finir complètement fous, quoi. Voilà. Ça fait partie des dangers que je vois.
Est-ce que cette capacité de stockage, et là on va passer à Norbert à côté, est-ce que cette capacité de stockage et de stockage mémoriel est présente dans le réseau vivant que tu décris ?
Oui, plus que ça. Et là je rejoins, je suis entièrement d'accord avec Catherine. Je développe un tout petit peu, à mon sens, un... C'est un vieux thème littéraire, le, l'individu de 30 ans, de 40 ans, de 20 ans n'est pas le même en réalité. Et l'illusion moderne, enfin une des illusions modernes, c'est de considérer, et par la mémoire informatique notamment, qu'on est face au même individu, à la même psychologie, à la même personnalité, et de créer une, en fait que l'avatar social prenne le plat, pas sur l'individu psychologique et l'individu tout court. Et donc oui, dans les tours de Samarante, il y a en fait ce qui correspond aux autorités, on va dire policières de la ville, c'est qui s'appelle l'Arcopole, ont organisé leur mémoire, leur propre mémoire de la cité et des gens dans des bunkers. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce sont des bunkers de renseignement. Parce que, bien entendu, ils connaissent toutes les, ils savent parfaitement et depuis longtemps que le réseau est pour eux, et donc l'information sensible doit être tenue à l'écart, puisqu'elle devient, elle devient un enjeu de pouvoir. Donc ça, c'est cette notion de bunker de renseignement, elle renvoie à la mémoire, c'est-à-dire que justement le réseau en lui-même de la ville, c'est un réseau quotidien, presque immédiat, c'est un flux que tout le monde utilise comme un outil qui se fond dans la société. Et en revanche, la mémoire de ce réseau et de tout ce qui s'est fait est elle dans un espace, enfin, dans un lieu à part, qui sont ces bunkers et qui eux sont inaccessibles, y compris physiquement. Donc moi j'ai tendance à penser qu'effectivement il y a deux notions très différentes. Il y a le réseau en ce qu'il a dans sa nature de lien, d'immédiateté, de quotidien qu'on connaît déjà tous aujourd'hui et qui à mon sens ne va faire que se développer et devenir quasiment invisible jusqu'à être dans tous les objets, y compris dans le corps peut-être, sûrement, et la mémoire elle-même. La mémoire elle-même, la mémoire des choses et des individus, qui est complètement autre chose. Et donc là, je rejoins Catherine, c'est deux choses différentes. En même temps, il est assez facile d'envisager les moyens de contrer du stockage de mémoire d'individus. Ce sont des moyens politiques, hein, il suffit de se battre pour ça.
D'accord. Il nous reste un petit quart d'heure avant que éventuellement je continue mes questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question dans la salle ? Quelqu'un ou quelqu'une ? Oui, madame.
Bonjour. Bien au contraire, avec les problèmes des avatars ou de l'identité qu'on peut développer aujourd'hui sur Internet, est-ce que le risque, ce n'est pas de devenir quelqu'un qu'on n'est pas vraiment, mais l'image que les autres ont de nous sur un réseau qui n'est pas en fait la vérité, quoi ?
J'ai le micro, je réponds. Oui, mais quelle est la différence avec la vie réelle ? On renvoie tous une image sociale qu'on crée et qui n'est pas forcément l'individu qu'on est. Ça, c'est toute notre société qui nous apprend à devenir un personnage social et donc un avatar social qu'on devient, avec lequel on est plus ou moins en phase avec l'âge. Le réseau permet de multiplier les avatars, à la limite les avatars sociaux. À la limite, pourquoi pas ? C'est plus créatif. L'individu qu'on est profondément, ça renvoie pour moi à un questionnement intime. C'est indépendant de la question des réseaux.
Ouais, non, moi, je suis d'accord. Ouais, bon, imaginons que moi, je me prenne un avatar, je sais pas, avec le physique de Marilyn Monroe, le charisme de Kennedy, je sais pas, la voix de Maria Callas. C'est sûr qu'une fois déconnecté, c'est la soupe à la grimace. Ça date pas d'hier, quoi. Moi, je me souviens d'une histoire, ça remonte au Minitel, quoi, genre milieu des années 80. Et une nana, elle allait sur les sites National 7 et autres sites de drague, quoi. Et elle donnait rendez-vous à des gus dans des bars. Et elle se présentait comme une jeune femme de 20 ans, 1m80, des mensurations de rêve et tout. Blonde aux yeux bleus, machin. Et elle était petite, grosse, moche, vieille. Et elle allait à ses rendez-vous, elle regardait le type attendre. Elle disait, c'est la première fois que ça m'arrive que quelqu'un attende que j'arrive. Voilà, alors elle ne pouvait pas arriver, puisque voilà, elle n'existait pas. Et elle faisait ça tous les soirs. Elle allait regarder un homme l'attendre. Et c'était, j'ai trouvé ça mais hyper sordos. Mais bon, le problème, finalement, là, n'est pas dans le réseau.
si un jour vous avez eu un lapin en draguant sur le Minitel, vous avez la solution. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, peut-être ?
Je sais que Catherine, par exemple, pour écrire l'ivresse des providers, a beaucoup fréquenté les réseaux, et notamment Usenet. Voilà. Je voulais savoir, bon, Norbert, je connais un peu la réponse, mais surtout M. Ligny, quel est ton usage des réseaux dans ton métier d'auteur ?
Très pragmatique, en fait. Je vais rarement sur des forums. J'ai pas de blog, je fais pas de chat, je vais pas sur les trucs interactifs, je me suis pas fait d'avatar dans Second Life. Pour moi, l'usage des réseaux reste essentiellement comme source d'information. Et puis évidemment, échange de courrier, email, etc. Enfin, le côté très pratique d'Internet pour un auteur maintenant. Et surtout comme la bibliothèque géante immédiate et un fourre-tout incroyable aussi. En même temps, ça... Effectivement, j'aurais pu avoir l'idée d'expérimenter, maintenant que ça existe, ces univers virtuels dont j'ai parlé dans Inner City, mais... j'ai pas envie parce que j'ai peur d'être trop déçu. Je pense que ce sera c'est encore en deçà de ce que j'ai décrit. Et puis peut-être j'ai peur de me laisser piéger aussi parce que je sais qu'il y a des gens qui passent des heures et des jours à vivre effectivement des vies secondaires virtuelles comme ça, qu'ils en oublient la vraie vie. Moi, j'ai pas envie de ça. Ma vraie vie me convient tout à fait. Donc, je ne ressens pas du tout l'envie ni la nécessité. Donc, pour moi, les réseaux tels que je les fréquente, en fait, sont essentiellement utilitaires. Par contre, ce que je redoute de plus en plus, c'est leur capacité à me surveiller. Et ça, bon, c'est de plus en plus prégnant. Je veux dire, la grande liberté d'Internet des années 90 à l'époque du 56K, elle tend à être niée par tous les bouts. Et effectivement, même si à chaque contrainte répond à un cœur qui va trouver la parade, néanmoins, c'est une espèce de combat permanent où il y a... forcément des perdants, et les perdants sont ceux qui sont les moins branchés technologie et qui vont se laisser piéger. Par exemple, peer-to-peer, c'est pas les gros pirates russes ou chinois qui vendent à des millions d'exemplaires des versions pirates de films ou de disques qui vont en pâtir. Ça va être l'usager de base qui sera téléchargé son dernier film débronzé au lieu de l'acheter. Et qui va payer une amende pour tous les autres. Il y a aussi, à travers les réseaux et à travers le flicage que l'actuel gouvernement est en train de mettre en place, tout peut être contrôlé, parce que tout devient interconnecté. À partir de, je pense que déjà, désormais, à partir de son adresse IP, quelqu'un de malveillant ou de gouvernemental peut connaître... votre compte en banque, votre carnet de santé, vos relations, sur quoi vous surfez, qu'est-ce que vous achetez, quels sont vos amis, pourquoi vous vous battez, etc. etc. Donc, je dirais que l'usage actuel des réseaux dans notre société actuelle, c'est tout sauf de l'intimité, quoi. On s'expose plus ou moins... plus ou moins volontairement ou plus ou moins consciemment, à voir dévoiler auprès de gens qu'on ne connaît pas une grande partie d'une activité malgré tout relativement intime, parce que surfer sur des réseaux Internet, c'est un acte déjà solitaire quand même, qu'on fait seul devant son écran, même si c'est pour être connecté à une communauté plus ou moins vaste de gens qui partagent les mêmes opinions, les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, la même culture, etc., etc. Mais en tout cas, on diffuse dans les réseaux des informations qui sont en principe considérées comme personnelles et intimes par la loi informatique et liberté qui ne sert strictement à rien.
Alors, on a une autre question et on va la poser tout doucement parce que votre voisin dort. Je crois qu'il a surfé un peu trop. Vous ne vous tracassez pas, c'est pas grave.
Est-ce que ce serait possible en fait d'avoir la réponse à la même question des deux autres auteurs, M. Merjanian et Mme Dufaux?
Bon, d'accord. Dans quelle mesure j'ai fréquenté les réseaux, c'est ça?
Quelle utilisation tu en fais?
En tant qu'auteur. Ouais, alors c'est vrai que pour Livraise et Providers, moi j'ai découvert
Et en tant que personne aussi, précise ouais. Monsieur.
J'ai découvert Usenet. Alors maintenant, Usenet, c'est un gros réseau des forums, des foras. Maintenant, on va sur d'autres forums, donc il y a moins de monde sur Usenet, mais on s'en fout. Alors là, moi, je vous invite à aller sur mon site, c'est catherinedufour.net. Et là, dans les liens, j'ai mis les liens vers les perles Usenet. Il y a aussi le mythique BashFR. Ce sont des gens qui se fatiguent à prendre les meilleures blagues stupides ou dialogues hallucinants qu'il y a sur tous les forums, sur Usenet, etc., sur IRC. Et c'est à hurler de rire, quoi. Si vous vous ennuyez dans la journée, vous avez un peu le blues, c'est un peu comme un Gaston Lagaffe, quoi, BashFR. C'est genre le neuneu qui arrive et qui dit « Je viens de recevoir un email de Jésus qui veut que j'agrandisse mon pénis, c'est normal. Enfin, » bon. Et là, moi, je me suis marrée pendant des plombes avant de contacter tous ces gens-là, parce que je voulais me servir de le travail qu'ils avaient fait de sélection des perles pour les mettre dans l'ivresse des providers. Et je leur ai demandé l'autorisation. Et je me suis fait plein de potes, mais dans la vraie vie. Alors, c'est vrai que moi, je fais partie de la vieille école, c'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un de sympa sur les réseaux, j'attends de le voir dans la vraie vie pour être sûr qu'il y a des gens qui passent très, très bien à l'écrit et qui sont très coincés, on va dire, à l'oral. Quelquefois, c'est l'inverse. Il y a des gens vachement sympas dans la vraie vie et dès qu'ils arrivent sur un forum, ils pètent un plomb. Ils se mettent à injurier tout le monde. Mais en moyenne, je n'ai pas été déçue. Mais c'est vrai que je fais partie des gens qui cherchent à rencontrer les gens dans la vraie vie et à faire des vraies relations, considérant donc en fait comme sous-relation tout ce qui est uniquement virtuel. Les gens plus jeunes n'ont pas du tout ce blocage-là. De même, toi, tu parlais d'intimité. Alors, c'est vrai que moi, j'ai quand même conscience. À chaque fois que j'envoie un mail, c'est quand même à peu près aussi intime que d'envoyer une carte postale. La seule raison pour laquelle ça ne va pas être lu, c'est juste que les gens n'ont rien à foutre de lire mon courrier. Mais sinon, ils peuvent. Et il y a des gens qui ont 10-20 ans de moins que moi. Je veux dire, ils s'engueulent sur leur blog. Ils savent que tout le monde peut le lire. Je me souviens d'un blog, il y a un type un petit jeune qui disait « Oh là là, je cherche du travail, je suis flippé, ça se voit, parce qu'à chaque fois que je suis flippé, je pisse à côté de la lunette. » Et donc, il y en avait quand même deux pages sur le fait qu'il faisait pipi à côté de la lunette. C'est hyper pas intéressant et ça ne gêne pas que tout le monde lise ça. Alors moi, ça me gênerait un peu, c'est rare que je... Voilà. Et là, il y a vraiment un déplacement de la notion d'intimité, et ça, c'est une question de génération, et moi, je n'arriverai jamais à me faire à l'idée qu'il faut que je raconte mes histoires de tampix sur le blog, mais si j'avais 10-20 ans de moins, ça ne me gênerait pas du tout. Mais c'est vrai que je ne considère pas du tout que le temps que je passe à tchatcher sur Internet, c'est de la fausse vie par rapport à une vraie vie qui consisterait à aller se promener dans les bois, surtout qu'en plus j'habite dans le 9-3, donc il n'y a pas beaucoup de bois. Voilà.
Non.
Non, j'ai pas de blocage à ce niveau-là. Quoi.
D'accord. Norbert, est-ce que tu peux répondre aussi à la question?
Oui, donc moi j'ai bossé une douzaine d'années dans l'Internet avant de quitter ce joyeux milieu. Aujourd'hui, je fais un peu comme tout le monde, j'utilise mon mail, j'ai un blog, j'ai quelques personnages sur WoW, je vais sur des forums. Surtout sur le net, aujourd'hui, je me suis constitué un ensemble de ressources d'informations. C'est-à-dire que ça fait quand même assez longtemps que je ne lis plus ou quasiment plus de journaux. Tout simplement parce qu'à croiser l'information qu'on peut trouver sur l'Internet, on s'aperçoit à quel point les journaux, les grands journaux nationaux sont d'une qualité médiocre aujourd'hui, voire très orientés. Donc c'est un vrai... moi, le réseau, pour moi, c'est avant tout ça. C'est un réseau, un espace ludique pour personnel et puis un espace d'information. Et pour reprendre une des idées, on parle de réseau au singulier parce que on imagine un grand réseau, mais personne n'a accès au grand réseau. C'est un peu comme l'État. L'État, ça existe et personne ne l'a rencontré. Il y a tout un tas de micro-réseaux ou de réseaux un petit peu plus grands. Et la plupart d'entre nous, quand on va sur, entre guillemets, le réseau, on va en réalité sur des réseaux où on se reconstitue un petit village, un petit quartier, une humanité qui se dénombre finalement... qui n'est pas aussi importante qu'on voudrait bien le dire. Ça, c'est la réalité humaine du réseau, de celle qu'on vit. Et puis, il y a le réseau dans sa potentialité, Jean-Marc parlait de la CNIL, dans sa potentialité, là encore, de surveillance ou le rapport à l'intimité. Pour moi, je suis extrêmement positif par rapport au réseau parce que je conçois pas. Pour moi, l'homme a toujours été en réseau depuis des dizaines de milliers d'années. Les réseaux commerciaux, les balbutiants quand ils sont constitués, la spécialisation lorsqu'on est passé des tribus de 100 individus à des tribus de 5000, c'est parce qu'il y a des réseaux qui sont constitués, des réseaux de spécialisation, d'artisanat, des réseaux marchands. Donc le réseau fait partie de l'humanité depuis excessivement longtemps. J'aurais même tendance à dire que l'homme moderne est constitué de réseaux. Donc c'est plutôt ce qui paraît intéressant, c'est beaucoup plus, c'est pas est-ce que le réseau est dangereux ou pas ça, c'est beaucoup plus quels sont les réseaux de demain et par nos gamins, etc. Et quels sont nos rapports à ces réseaux, évidemment quels sont potentiellement les dangers. Mais moi, je trouve qu'être capable de pouvoir prendre des casquettes, mettre des visages, se masquer éventuellement, on le faisait beaucoup dans les sociétés anciennes, hein, mettre des masques, ne serait-ce que dans les périodes de carnaval, pour adopter une autre forme d'humanité que celle de quotidienne, c'est un potentiel fantastique. Et je ne sais pas, c'est peut-être l'esprit cartésien français est parfois un peu critique et un peu noir par rapport à quelque chose, moi, que j'envisage beaucoup plus, de façon beaucoup plus ludique et joyeuse.
Alors, on a encore 120 secondes pour une dernière question. Est-ce qu'il y en a une?
Oui.
Non, ah pardon. Personne. Eh bien, on va vous remercier d'être venu. On va vous inviter à rester ici car il y a une rencontre avec Jeff Noon entre 15h30 et 16h30. Et en même temps, à 16h, débute une rencontre avec Robin Hobb de l'autre côté. Donc, on pourrait peut-être vous mettre entre les deux pour avoir les deux.
Puis nous, on monte dédicacé à la librairie.
Et tous ces auteurs ici présents, voilà, ils peuvent aller à la librairie. Merci à tous.
Pour faire